Les cours du Collège de France, culture écrite de l'Antiquité tardive et papyrologie byzantine. Jean-Luc Fournet.
Alors pourquoi s'intéresser au monastère du Petit Foibamon ou du Foibamon I, perdu, vous avez vu, dans le désert, dont il ne reste pas grand-chose, et n'ayant livré que quelques rares pièces, ostracas, susceptibles d'être en rapport avec le sujet qui nous occupe cette année, l'enseignement dans les monastères. Eh bien, c'est en dehors du monastère proprement dit que réside la réponse et la surprise. Sur les rochers environnants, couverts d'inscriptions, on trouve en effet au milieu de ces inscriptions, qui, sous forme de dessins, de graffiti ou de dipinti, contiennent pour la plupart des noms propres du type « moi, un tel », éventuellement « priez pour moi hein, »,« Anok », etc., « Shell et Joy ». Eh bien, au milieu de toutes ces inscriptions, on en trouve certaines qui font figure d'intrus. Mais avant de vous les présenter, je dois commencer par une mise en garde méthodologique. La publication de ces inscriptions en 1965 est très déficiente. Elles ont été relevées en 1947 et en 1949 par le coptisan égyptien Yassa Abd el-Massir, qui est mort en 1959 et donc n'a pas pu assurer la publication. Les inscriptions grecques ont été éditées par Roger Raymondon seulement à partir des relevés de son collègue égyptien qui lui ont été envoyés à Paris. Tandis que la publication des inscriptions coptes fut confiée à Walter Thiel, qui lui non plus n'a pas pu voir les originaux et qui reconnaît dans sa préface, qui est datée de 1950, je le cite, « ne pas avoir pu donner à ce travail autant de temps qu'il l'aurait souhaité et que la tâche l'exigeait ». Thiel eut par ailleurs la mauvaise fortune de mourir en 1963, sans voir donc la publication du volume. Le travail de mise en forme et de révision des notes d'Abd el-Massir et de Thiel fut à son tour confié à Oswald Burmeister, qui se trouve sur la page de titre de la publication. Burmeister qui, sans voir les inscriptions, travailla lui aussi sur les carnets d'Abd el-Massir et de Charles Bachatli. Bref, du fait de leur position parfois inaccessible et de la nécessité d'avoir recours à des échafaudages, ce que seul Abd el-Massir, que vous voyez sur cette photo, a pu faire, eh bien, les éditeurs qui prirent le relais ont travaillé à l'aveugle en devant faire confiance au travail de leur découvreur trop tôt disparu. S'ajoute à cela que seulement 7 inscriptions sont accompagnées de photos. Et il faut voir quelles photos. Elles ne sont pas excellentes. C'est le moins qu'on puisse dire. Et dans un cas d'un dessin. Pour couronner le tout, la localisation des inscriptions est donnée pour chaque inscription de façon très vague et les coordonnées n'ont pas été reportées sur une carte. Hein, vous voyez, on s'est juste contenté de dire sur la falaise circulaire, côté ouest, etc. Mais il n'y a aucune carte qui montre précisément où chacune de ces inscriptions a été trouvée. Évidemment, si on avait cette carte, ça aurait permis de mettre en contexte beaucoup plus précisément ces inscriptions. On comprend dans ces conditions que ces éditions doivent être exploitées avec prudence. Certaines ont d'ailleurs fait l'objet de corrections, mais je dois dire que l'ensemble mériterait que ce travail soit repris à nouveau frais. C'est quelque chose que je n'ai pas pu faire. Et je me suis contenté de le faire à partir des relevés de la publication, des images qui se trouvent, des photos qui sont dans la publication, ainsi que pour certaines inscriptions, des images que m'a aimablement communiqué Guy Lecuyau, qui a visité le site en 2011. Et ces images accompagneront, quand elles existent, ma présentation. Alors, regardons certaines de ces inscriptions qui se démarquent du lot des inscriptions souvenirs laissées par les moines. Alors, avant de vous les présenter, je vous montre ce que sont ces inscriptions souvenirs. Par exemple, alors je vous montre des inscriptions qui sont inédites, que j'ai pu identifier à partir des photos de Guy Lecuyau et qui ne sont pas dans la publication. Par exemple, vous avez l'inscription de ce moine, Moïse. On arrive à lire Mo-U-Sès, Mo-Na-Kon, moine, et ensuite Shlel et Joy. Alors, et Joy est assez difficile à lire, mais priez pour moi. Et ce même Moïse-Sès a laissé pas très loin une autre inscription. On reconnaît un petit peu sa façon d'écrire à Moïse. Cette fois-ci, il a écrit Monakon, qui est une faute, puisqu'en fait, en grec, c'est soit Monakos, le moine, soit Monadzon, le participe, et là, il a mêlé les deux avec cette forme Monakon. Ou, je terminerai juste cet échantillon des inscriptions souvenirs avec cette inscription qui est presque un dessin, où vous avez autour d'une croix eh bien, le nom d'Abraham, Alpha, Beta, Rho, Alpha, Mu, qui forme comme une espèce de monogramme. Alors voilà, ça c'est le lot, disons, de la plupart des inscriptions. Regardons maintenant ces inscriptions, comme je le disais, qui font intrus et qui éclairent le thème que nous scrutons cette année. La première, la sixième dans la publication des inscriptions coptes, a été trouvée sur le côté ouest de la falaise circulaire qui surplombe le monastère. Vous vous souvenez de cette falaise qui entoure complètement le monastère. Elle est gravée. On a là, vous voyez, une série de chiffres. En fait, ce sont des additions. Les chiffres de la première ligne sont additionnés à la ligne 2. La ligne 3 donne 3 chiffres qui ne sont pas additionnés. La ligne 4 donne aussi 3 chiffres qui se suivent, là encore non additionnés. La ligne 5 donne 7 chiffres additionnés à la fin. Vous avez ici le total, 141. Enfin, le troisième chiffre de la ligne 6, c'est-à-dire 454, est l'addition de tous les chiffres de la ligne 1 à 5 ainsi que les deux premiers chiffres de la ligne 6, donc une espèce de total général. Et ensuite, on a encore un chiffre, 41, qui est peut-être le début d'un autre calcul non terminé. Ce sont là donc des exercices d'addition qui ont des parallèles dans les papyrus scolaires, parmi lesquels on a retrouvé un certain nombre de tables d'addition. Je vous en montre juste un exemple avec ce papyrus, probablement du 7e siècle, malgré la date de l'édition qui est plus ancienne, où vous voyez aussi des chiffres qui sont additionnés, 7 plus 3, 10, 3 plus 7, 10, etc. Alors, le statut d'exercice qu'ont ces chiffres, on pourrait me dire que c'est peut-être quelqu'un qui juste a additionné. Bon. Mais en fait, j'y vois un exercice d'autant plus aisément qu'on a autour d'autres inscriptions de nature arithmétique. Alors regardons-les. L'inscription grecque numéro 16, trouvée, d'après l'édition, dans une vallée indépendante située à l'est du monastère. Elle est écrite à l'encre, peut-être rouge, d'après la photo. La mauvaise photo que je vous montrerai plus tard. Enfin, que vous avez ici, mais dont je reparlerai plus tard. Les lignes 10 à 20 sont des tables de multiplication, en l'occurrence de carrés de 10 à 30. Vous voyez, 10 multiplié par 10 égale 100, 11 multiplié par 11 égale 121, etc., etc. Elles sont précédées de 9 lignes dont la lecture est assez lacunaire dans l'édition et a été améliorée par Jacques Schwartz, qui a pu utiliser les carnets d'Abdelmassir. Alors, Jacques Schwartz a donné un compte-rendu dans la chronique d'Égypte de 1967 de la publication et il a pu utiliser donc les carnets du coptisan égyptien, ce qui lui a permis de proposer un texte amélioré que vous avez ici, donc il pense qu'il faut lire pour le compte ou pour le calcul, puisqu'en grec logos a ces deux sens, nouveau ou pour le compte ou calcul ancien de blé, et ensuite on a un texte qui est trop lacunaire pour être lu. Alors, le texte de Céline n'est pas clair, mais d'après l'éditeur, Roger Raymondon, il semble bien qu'il se rapporte à la table de multiplication. Alors, peut-être s'agit-il d'un énoncé d'exercice arithmétique nécessitant le recours à des tables de multiplication qui sont données juste après. Continuons notre examen de ces inscriptions. La suivante, c'est l'inscription COP numéro 5. Elle a été trouvée sur le côté ouest de la falaise circulaire qui surplombe le monastère, juste au-dessus de l'inscription copte 6, c'est-à-dire les additions. Alors, comme vous le voyez à l'écran, on a là une table de multiplication par 3. 3 fois 1, 3, 3 fois 2, 6, 3 fois 3, 9, etc. Alors, cette table, bizarrement, a été classée dans les inscriptions coptes de ce volume, alors que finalement, cette inscription est de même nature que la précédente, qui, elle, a été classée dans les inscriptions grecques. Les chiffres, vous le savez, transcendent la frontière des langues. Je rappelle qu'en copte comme en grec, les chiffres s'expriment avec les lettres de l'alphabet, qui sont les mêmes qu'on soit en copte ou qu'on soit en grec. Alors, vous voyez juste que dans cette table de multiplication par 3, il y a un intrus, hein, c'est la ligne 7, mais en fait, cette ligne a été probablement mal lue et mal placée. En fait, il faut y voir plutôt la ligne 7 de la seconde colonne et à la place du rho, lire un gamma, et ce qui donne 3 fois 40, 120, et ce qui permet de poursuivre ici la série, commencer à la colonne 2. Continuons. L'inscription copte numéro 153, trouvée dans une vallée séparée à l'est du monastère. Alors, on ne sait pas, d'après la publication, si elle a été gravée ou si elle a été peinte, peu importe. On a cette fois-ci une table de multiplication par 4. Alors, l'édition signale une autre colonne, hein, notée B, dont on aurait peut-être seulement la fin des lignes, nous dit l'éditeur. En l'état, elle est complètement inexploitable et il n'est pas certain qu'elle appartienne au même texte que la première, ni qu'elle était tracée par la même main. Je continue avec une inscription qui ne se trouve pas dans la publication et qui a été copiée par Abdelmassir à côté justement de l'inscription copte 5 et 6 sur le côté ouest de la falaise circulaire qui surplombe le monastère. Cette inscription a été omise dans l'édition, mais Jacques Schwartz, qui, je vous l'ai dit, avait à sa disposition les carnets d'Abdelmassir, a pu la présenter dans son compte-rendu, mais sans en donner le texte. Alors, je suis obligé de me fier aux quelques lignes qu'il a consacrées à cette inscription qui reste inédite, à une table de multiplication par 5, des unités, dizaines, centaines, milliers, colonne 1 de 5 fois 1 à 5 fois 8, fin effacée, colonne 2 de 5 fois 9 à 5 fois 100, colonne 3 de 5 fois 200 à 5 fois 4000, les lacunes en tête et en bas de la colonne, colonne 4 de 5 fois 5000 à 5 fois 10000. Les produits de ces multiplications par milliers sont exprimés d'une manière, nous dit Jacques Schwartz, que je ne comprends pas et qui n'a rien à voir avec aucun système de talent ou de drague. Voilà qui nous laisse d'autant plus regretter que le relevé des carnets n'ait pas été reproduit par Jacques Schwartz. Autre inscription, toujours absente de la publication, c'est une sixième inscription arithmétique qui a échappé aux éditeurs du volume et a été identifiée par Alain Delattre à partir des photos prises par Guy Lecuyot, les mêmes photos que je vous ai montrées, que je continuerai à vous montrer plus tard. Sa localisation par rapport aux autres n'est pas précisée. Elle est gravée et partiellement recouverte par un graffito arabe moderne. Vous voyez que l'habitude de laisser des graffitis est quelque chose qui existe depuis toujours et qui continuera à exister. Alors, elle est, d'après donc Alain Delattre, on déchiffre les restes assez effacés de la table de 5, hein, de 5 fois 1 égale 5 à 5 fois 700 égale 3500, répartis sur 6 colonnes. L'ensemble mesure environ 1 mètre de large. Alors, en plus, on a un petit cadeau, on a un petit dessin d'un personnage avec une tête démesurée à cheval. Alors, pourquoi toutes ces inscriptions, me direz-vous? Aurait-on là les gribouillages d'un furieux de l'arithmétique, d'un maniaque des tables de multiplication qui se serait amusé à en couvrir les rochers? Alors, une explication plus plausible se dessine si l'on regarde de plus près les autres inscriptions qui environnent le monastère. On y découvre des textes qui, par leur contenu, semblent confirmer qu'on aurait affaire au reste épigraphique d'un enseignement. Nos inscriptions arithmétiques suivent en effet parfaitement les méthodes attestées dans les écoles séculaires et passent par l'ingurgitation des tables d'addition, des tables de multiplication, qui pouvaient être présentées exactement comme sur nos rochers, si on en juge par les papyrus scolaires nombreux qui ont été découverts en Égypte. Alors, j'ai déjà eu l'occasion de vous montrer un exemple de papyrus avec des additions. Les tables de multiplication ont été exhumées en beaucoup plus grand nombre, un peu partout dans la vallée du Nil, et suivent plusieurs modèles. Alors, l'un d'entre eux consiste, comme dans la plupart de nos inscriptions, à présenter les multiplications par ordre croissant du multiplicande, chacun accompagné d'un multiplicateur allant de 1 à 10. C'est le cas de ce papyrus d'époque romaine qui commence ainsi, comme vous le voyez ici, donc 7 fois 8, 7 fois 9, 7 fois 10, ensuite on passe à 8, etc., 1 jusqu'à 10, à 9, 10, etc. Donc, vous le voyez, ce papyrus commence de cette façon et propose ensuite un autre type de table de multiplication par carré. Hein, c'est le cas ici, 1 fois 1, 1, 2 fois 2, 4, 3 fois 3, 9, etc. Qui se trouve être aussi l'autre méthode que nous avons dans nos inscriptions, notamment l'inscription grecque numéro 16 que je vous ai montrée. Alors, ce qui achève de confirmer l'hypothèse scolaire, c'est que nos inscriptions mathématiques s'inscrivent dans un ensemble plus large qui témoigne d'un enseignement à la fois mathématique et lettré. Alors, j'entends par lettré un enseignement qui concerne l'apprentissage de l'écriture et de la langue. Donc, après les cours de mathématiques, passons au cours de langue. Avec notamment cette inscription, l'inscription copte numéro 15, qui a été trouvée toujours sur le côté ouest de cette fameuse falaise circulaire hein, qui encercle complètement et surplombe le monastère. Et semble-t-il assez proche des deux inscriptions arithmétiques que nous avons vues, hein, l'inscription copte 5 et 6. Alors, l'absence de photo, toujours pareil, ne permet pas de savoir si l'inscription était gravée ou peinte. L'édition la présente comme une liste de noms accompagnée sur la gauche, ici, je l'ai mis en bas, d'une formule trinitaire, le Père, le Fils et l'Esprit-Saint. Peneiot, Pechere, Pepnema et Touab. Donc, liste de noms, mais pas n'importe quel nom. Contrairement aux inscriptions environnantes qui donnent les noms de personnes qui ont laissé un témoignage épigraphique de leur présence, de leur passage dans le monastère, les entrées de cette liste ne sont pas à mettre en rapport avec des personnes vivantes, mais sont pour la plupart des noms bibliques, comme l'avait déjà bien vu Alain Delattre. Mais vous pourrez m'objecter que nous sommes à une époque où les gens portaient aussi des noms bibliques. Mais je vous répondrai que certains noms de cette liste, eh bien, ne sont absolument pas portés par les chrétiens de l'époque. C'est le cas notamment de Zorobabel, qui est à la ligne 16, qui est complètement absent du répertoire onomastique contemporain, mais qui renvoie au petit-fils du roi de Juda, Joachim, qui joua un rôle décisif dans la construction du second temple de Jérusalem. Il est cité dans les livres d'Esdras, d'Agée et de Zacharie, ainsi que par Matthieu et Luc dans leur évangile, comme ancêtre direct de Jésus. Ce nom appartient donc à la strate que j'appellerais vétérotestamentaire de cette liste, comme Ézéchias, que vous avez à la première ligne, roi de Juda, ainsi que Azarias et Ananias, à la ligne 11 et 12, qui sont deux des trois enfants, des trois Hébreux, le troisième étant Misaël, qui nous apprend le prophète Daniel, dont ils étaient les compagnons, furent jetés vivants dans une fournaise sur l'ordre de Nabucodonosor II pour les punir de refuser de se prosterner devant une idole, avant évidemment qu'ils ne soient sauvés par un ange, à la suite de quoi, vous le savez, le roi babylonien s'est converti. C'est Daniel 3, 8:30. Alors, ces trois personnages, dont on a juste deux des noms ici, Azarias, Ananias et aussi Misaël, qui n'est pas présent dans l'inscription, ces trois personnages qui symbolisent la délivrance divine et qui préfigurent d'une certaine façon, ou qui ont été considérés comme préfigurant les précurseurs, enfin les martyrs chrétiens, mais ces trois personnages ont acquis une grande popularité en Égypte qui se traduit par leur fréquente évocation dans les textes. Pour cela, je vous renvoie à un article de Jacob Muiser, le culte des trois jeunes gens, des trois saints jeunes gens chez les Coptes, dans les cahiers Coptes 6-1954. Et cette popularité se traduit aussi par le nombre des œuvres qui les représentent. Alors, je vous avais déjà montré dans un cours précédent une peinture de Bawit, je voudrais vous montrer une autre œuvre, une icône qui se trouve actuellement au Sinaï, qui est assez ancienne, qui date du 7e siècle, et qui représente donc nos trois Hébreux avec l'ange qui les a sauvés. Alors, si vous êtes intéressé par ce thème des trois Hébreux dans la fournaise, dans l'art, je vous renvoie à un article de Madame Rassard de Berck, « Les trois Hébreux dans la fournaise en Égypte et en Nubie chrétienne », publié dans la Rivista degli Studi Orientali, 58-1984. Alors, la notoriété de ces trois Hébreux se mesure aussi à la diffusion de leur nom dans l'onomastique d'Égypte, surtout Ananias et Azarias. Le premier, Ananias, ayant connu un regain de popularité encore plus important du fait qu'un évêque homonyme de date indéterminée est entré dans le sanctoral copte, portait ce nom et donc a stimulé la vogue de onomastique du nom Ananias. Alors les noms néo-testamentaires ne sont pas absents dans cette liste, au contraire, ils sont beaucoup plus nombreux. Alors, à côté de Marie, à la ligne 9, eh bien, nous avons surtout des apôtres, Barthélemy, à la ligne 5, qui est souvent nommé dans les textes avec Philippe, et bien justement, c'est le cas ici, à la ligne immédiatement précédente. On a aussi André, à la ligne 11, Pierre, à la ligne 2, Paul, à la ligne suivante, Jean, le célèbre évangéliste, à la ligne 18, Jean, fils de Zébédée, qui se trouve justement à la ligne 15, et enfin, Zachée, à la ligne 14, le riche publicain de Jéricho, qui, selon Luc, a reçu Jésus chez lui et a fini par donner la moitié de ses biens pour réparer ses fautes passées. Donc voilà pour la strate, je dirais, néo-testamentaire. Et puis il y a une troisième strate, qui est celle des noms patristiques tirés de la géographie ou de l'histoire de l'Église. Alors évidemment, quand je parle d'Église, on pense tout de suite à Constantin, l'empereur qui fit basculer l'Empire dans le christianisme. Il se devait de figurer dans cette liste, à la ligne 4. Et puis, comme on est en Égypte, Athanase, peut-être le plus célèbre évêque d'Alexandrie, un des théologiens les plus marquants, qui se trouve donc à la même ligne, à la ligne 4. Et qui se trouve d'ailleurs aussi à la ligne 13, il a été répété deux fois. Ménas, un des saints les plus fameux du sanctoral égyptien, martyrisé sous Dioclétien, et dont le sanctuaire à l'ouest d'Alexandrie a attiré en permanence une foule de pèlerins. Et vous avez ici une représentation ancienne de saint Ménas, qui a été trouvée au monastère de Bawit et qui se trouve actuellement au musée du Louvre. Alors je rattacherai volontiers à cette strate le second nom de la ligne 9, Téké. Alors vous allez me dire, mais Téké, ça ne veut rien dire. Effectivement, mais je pense en fait qu'il faut lire Tékla. Tékla, avec le lambda mal fait qui peut ressembler à la partie gauche d'un état. Et donc, on aurait à en faire au nom de Thècle. Thècle, cette célèbre sainte dont le sanctuaire principal était en Cilicie et qui a connu une très grande popularité en Égypte. Ce n'est probablement pas un hasard si elle était associée à deux des figures qui se trouvent dans notre liste, Paul, on l'avait déjà vu, Paul, et je vous rappelle que Thècle est connu notamment à travers les actes de Paul et de Thècle, un texte apocryphe qui raconte comment l'apôtre convertit Thècle au christianisme et comment, grâce à lui, celle-ci est allée au-devant du martyr. Ce qui explique d'ailleurs que Thècle se retrouve souvent dans l'art associé à Paul. Voici un exemple tiré de la nécropole de Bagawat en Égypte. Vous voyez ici Thècle avec son nom et qui est assise à côté de Paul. Et vous voyez qu'il y a un troisième personnage qui est Marie. Or, il se trouve que dans notre liste, Marie est le nom qui est juste avant celui de Thècle. Et donc, je disais, ce n'est pas un hasard si Thècle était associé à Paul, mais aussi à un autre personnage qui se trouve dans notre liste, qui est Ménas, lien renforcé par le fait que Thècle avait un sanctuaire en Égypte, dans la région d'Alexandrie, comme Ménas. Et un exemple de cette association, avec cette ampoule à eulogie, hein, vous savez, ces petits récipients que les pèlerins ramenaient de leur pèlerinage, c'est aussi une magnifique pièce qui se trouve au musée du Louvre, qui représente sur une face Ménas, hein, vous avez son nom, Agiou Ménas, ici, hein, Tou Agiou Mena, et de l'autre côté, eh bien, vous avez Thècle, qui est représenté, là encore, on le sait, grâce au nom qui se trouve sur la bordure circulaire. Alors, vous aurez noté que les noms de notre liste ont été choisis non seulement en fonction de la personnalité de leur porteur, hein, en donnant justement un échantillon des personnalités tirées des trois types de sources importantes pour un chrétien, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, les textes patristiques, hagiographiques, etc. Et en respectant aussi certaines associations, hein, Paul, Thècle, Ménas, Barthélemy, Philippe, mais ils ont été aussi choisis en fonction de leurs initiales ou de leur initiale. On relève en effet des séries commençant par la même lettre, hein, comme dans les papyrus scolaires. Là, vous avez deux noms qui se suivent commençant par Pi. Ici, vous avez quatre noms qui se suivent commençant par un alpha. Et ici, trois noms qui se suivent commençant par un zeta. Alors, il reste trois noms qui n'entrent pas dans le cadre des onomata de personnages bibliques, patristiques ou hagiographiques. Ils sont tous localisés à la ligne 6, 7, 8 et 10. Alors, le premier, c'est Shemet-Nehu, ou Shemenet-Nehu, hein, vous avez les deux orthographes. C'est un nom propre qui vient de l'égyptien qui signifie, d'une séquence égyptienne qui signifie les trois frères, qui a été rendu en grec par cette forme qui a l'air un peu barbare, parce qu'elle présente une succession de consonnes, mais aussi elle a été traduite, si je puis dire, en grec sous la forme triadelphos. Donc c'est une séquence qui signifie les trois frères. C'est un nom typiquement thébain, donc de la région de Thèbes, nous sommes justement dans cette région. Et c'est un nom qui, par sa valeur, son sens, renvoie à des spéculations théologiques de l'ancienne religion égyptienne autour du dieu crocodile, comme un autre nom un peu semblable, qui est Sansneu, qui veut dire les deux frères. Bon, je n'insisterai pas sur cet aspect qui est purement égyptologique et finalement en dehors de mon propos. Alors, l'autre nom qui échappe un petit peu aux trois strates dont j'ai parlé, eh bien, c'est Sénétum, qui veut dire probablement le fils d'Atum, d'un point de vue étymologique, qui est lui aussi un nom typique de la région où nous sommes. Et enfin, le nom Taritséné, un nom féminin absolument rarissime. Il est absent des répertoires onomastiques coptes que nous avons à notre disposition, surtout celui d'Azitska. Et en fait, ce n'est pas un apax, il apparaît aussi dans une seule fois sur un objet qui se trouve au Caire, qui est une croix. Et vous avez ici le nom de la personne qui était probablement la donatrice de cette croix, Madame Taritséné. Hein, c'est une croix qui fait partie du trésor de Louxor. Alors, la question qui se pose, pourquoi ces trois intrus qui ne semblent pas avoir été portés par des figures illustres du christianisme, contrairement à toutes les autres? Alors, on remarquera qu'à l'exception de Taritséné, eh bien, ces noms ne se suivent tout d'abord et correspondent à des noms égyptiens qui commencent par la lettre Shai. C'est le cas de Shemet-Sneu ou Shemenet-Sneu, mais aussi c'est le cas de Shenetom. Alors vous allez me dire, mais pourtant c'est bien un sigma qui se trouve là. Mais en fait, la forme copte normale de ce nom, c'est Shenetom avec un Shai. Vous savez qu'en grec, le son che n'existe pas et donc le che copte est rendu par un sigma en grec. Autrement dit, nous avons là une séquence de trois lignes donnant des noms en che. C'est cette lettre, la lettre Shai, étant propre copte, la personne qui a sélectionné les noms de cette liste a été obligée pour illustrer les séquences en che eh bien de puiser dans le répertoire des noms coptes et pour ce faire a choisi des noms qu'elle connaissait bien. Il se trouve que le nom Shemet-Sneu est typique, je l'ai dit, de la région thébaine, comme Shenetom, et il se trouve que le premier, Shemet-Sneu, est bien attesté au monastère de Foibamon. Sur la même falaise, surplombant le monastère, donc pas très loin de notre liste de mots, on relève plusieurs inscriptions laissées par un monsieur Shemet-Sneu. Vous voyez ici l'inscription copte 27, hein, où il a laissé son nom. Ici, l'inscription 58, où on a probablement ici le même nom, après celui d'Isaïe. Cette personne, ou un homonyme, a même gravé son nom sur un des rochers qui se trouve au centre du monastère. Vous voyez que ça, ce sont les ruines du monastère, et il y a deux gros rochers au centre, hein, qui existaient déjà à l'époque ancienne. Ce n'est pas des rochers à la suite d'un éboulement récent, non. Ce sont des rochers qui étaient là à l'époque ancienne. Et sur l'un de ces rochers, on a notre Shemet-Sneu qui a gravé son nom. Alors la conclusion s'impose d'elle-même, je crois. Nous avons dans cette liste des noms presque tous littéraires, c'est-à-dire tirés, disons, d'œuvres en tout cas chrétiennes, probablement puisés dans des listes d'onomata classées en triade ou en tétrade, d'où les restes de séquences commençant par la même lettre. Autrement dit, nous avons là typiquement les traces d'un enseignement scolaire. D'ailleurs, les noms présents dans notre liste se retrouvent dans d'autres listes, elles assurément scolaires, qui ont été trouvées sur papyrus ou sur tablette. Hein, je voudrais vous montrer un exemple avec cette tablette du 7e siècle, qui présente aussi des listes de noms propres, hein, classées par ordre alphabétique. Eh bien, vous voyez qu'on a André, Constantin, Jean, Paul, Athanase, Ézéchias ou Yézéchias ici. Ou cet autre exemple, j'ai choisi un autre support, le papyrus, c'est un texte que j'ai eu l'occasion de commenter longuement l'année dernière, qui est aussi une liste, vous voyez, classée par, dans l'ordre alphabétique, et où on trouve notre tecle, ce qui confirme, je crois, la lecture que je propose, Pierre, Paul. Et je pourrais multiplier les exemples. Nous n'avons là finalement que la mise en pratique des recommandations, vous vous souvenez, de Basile, demandant dans une de ses grandes règles que j'ai citées, demandant à ce que les maîtres d'école monastique utilisent les noms, les onomatas tirés des Écritures. Ou bien la recommandation que Jérôme donne à Laeta, hein, dans sa lettre 107, que les noms eux-mêmes par lesquels sa fille s'habituera peu à peu à former des phrases ne soient pas prises au hasard, mais bien déterminées et réunies à dessein, par exemple ceux des prophètes et des apôtres, comme dans notre liste, que toute la suite des patriarches depuis Adam se succède, comme dans Matthieu et Luc, en sorte que, tout en faisant autre chose, elle en meuble sa mémoire pour l'avenir. Alors, le caractère scolaire de notre inscription, dont la pédagogie, vous voyez, est placée sous le signe des Écritures, pourrait être renforcé par l'ajout, à gauche, de la formule trinitaire, hein, qui peut être une façon d'apprendre aux élèves ce qu'est la Trinité et la façon dont on l'exprime. Ce qui est d'autant plus utile qu'à partir de l'empereur Phocas, donc au début du 7e siècle, eh bien, tous les actes, tous les documents, en tout cas juridiques, commencent aussi par cette formule, par cette invocation trinitaire. Et donc, ça peut être aussi un entraînement pratique. De même, serais-je tenté d'annexer à cet enseignement l'inscription qui se trouve juste à côté. C'est l'inscription copte 14 qui, après une croix, donne la liste des trois archanges. Saint Michel, Saint Gabriel, Saint Raphaël. Et je crois le caractère didactique, pédagogique de cette inscription est renforcé par le fait qu'on n'a pas, comme dans d'autres inscriptions, avec une invocation, l'expression « priez pour moi », par exemple, et qu'on a aussi ici le « hengelos », hein, les anges, une précision très didactique, dirais-je, à la suite de cette liste des trois archanges. Alors, bon, vous m'objecterez peut-être que le caractère scolaire de cette inscription est incertain, et vous n'aurez pas totalement tort, mais je crois ajouter au reste, eh bien, cela devient assez vraisemblable. Et encore, je n'ai pas dégainé toutes mes cartouches, ou utilisé toutes mes cartouches. Trois autres inscriptions du Feuillebamont 1, du petit Feuillebamont, ont un caractère, elles, je crois, indubitablement pédagogique. Ce sont des listes de mots thématiques. Alors, regardons-les. La première, c'est l'inscription copte, numéro 2, trouvée sur le côté ouest de la falaise circulaire qui surplombe le monastère, toujours la même. On ne sait pas si elle est gravée ou peinte. Bon. Donc, vous voyez qu'elle se présente avec un nom grec, un nom copte. Un nom grec, un nom copte. Donc, ornithine, qui veut dire poulet, avec la traduction en copte. Équitine, alors, on a du mal à voir de quoi il s'agit, mais en fait, il faut lire Aegidion, ça signifie petite chèvre, chèvre, et vous avez ici la traduction en copte, Bampé. Peristeria, probablement pour Peristerion ou pour Peristera, la colombe, qui est rendue par la traduction copte, Criompé. Probaton, le mouton, et sou. Coiridion, il faut dire coiridion ici, et chaud, le cochon. Cunaria, sûrement pour Cunarion, le chien. Wahor. Alopux, il faut lire alopex, bachor, le renard. Ici, vous avez l'âne. Ici, vous avez un mot mal orthographié qui veut dire le cheval. Et puis ensuite, vous avez une série de mots un peu différents. Venez ici, donc en grec et en copte. Stukei, aché eratek, tiens-toi debout. Agomen pour agomen lumeta, qui est rendu par le copte, allons-nous laver. Et ici, péripatei, c'est ce qu'il semble falloir lire à la place de parpati, qui est rendu par le mot copte moshe, qui veut dire marche.
Donc, on a une liste de mots bilingues, grec, copte, en deux parties. La première est consacrée aux animaux, la seconde donne des verbes de mouvement ou de station à l'impératif de la seconde personne ou au subjonctif à valeur impérative, rendu en copte par des impératifs ou par un
optatif, comme c'est le cas ici.
La position initiale des mots grecs, suivi donc par les mots coptes, montre que l'exercice avait pour but d'enseigner cette langue aux coptophones. Les mots sont d'ailleurs écrits par quelqu'un qui maîtrise très mal la langue grecque, si j'en juge par le nombre considérable de fautes commises
avec des phonétismes. Hein, on l'a vu ici, hein, Aikitine, qu'il faut lire Aigition, etc., etc. Vous avez aussi des erreurs de nombre. On mélange le singulier et le pluriel, aussi bien pour les noms que pour les verbes. Vous avez aussi peut-être des erreurs de mode. Ici, vous avez stukei, qu'il faut lire en fait stekei à la place de stekei. Bon. On notera que les mots appartiennent au vocabulaire courant. Hein, les animaux, c'est vraiment des animaux extrêmement courants. Et que les verbes correspondent à des ordres qu'un maître pourrait donner à des élèves, à la séquence. Par exemple, venez ici, tiens-toi debout, alors marche, alors allons nous laver, ça peut peut-être vous étonner, mais ça pourrait être aussi un genre d'instruction qu'on pouvait être amené à répéter à des jeunes garçons, peu attentifs à leur hygiène corporelle. Mais là, je suis en train peut-être de sombrer dans le romanesque, et donc je vais immédiatement arrêter et passer à l'inscription suivante avec l'inscription copte 19 qui se trouve sur le côté nord de la falaise circulaire qui surplombe le monastère. Là encore, on ne sait pas si elle est gravée ou peinte. Elle est constituée de deux colonnes d'après l'édition, hein, la colonne A et la colonne B. Alors, ben là encore, vous voyez qu'on a des mots grecs hein, rendus par des mots coptes, poireau, laitue, endive, orge, trèfle, sésame, ail.
Cette liste semble continuer pas très loin, sans que l'éditeur nous dise s'il l'a mise sous un autre numéro parce qu'elle était d'une autre main ou seulement parce qu'elle était séparée de la première, avec cette inscription, l'inscription copte 21. Là encore, nom grec suivi d'un nom de leur traduction en copte, hein, de sa traduction en copte, donc ail, oignon, la rue, hein, la plante. Bon. Les remarques que j'ai faites sur la première liste bilingue s'appliquent aussi à celle-ci. Les mots grecs placés en premier ne sont pas toujours bien orthographiés, indice, là encore, d'une connaissance secondaire et peu développée de la langue grecque. Et vous voyez la répétition ici du mot « ail », de la séquence concernant l'ail, qui peut-être est une espèce de qui fait raccord, disons, entre les deux inscriptions. Peut-être que la personne ici s'est arrêtée là, puis a continué ailleurs en reprenant la dernière ligne. Et d'ailleurs, cette fois-ci, en orthographiant correctement le mot grec, qui est complètement défiguré dans la première inscription. Alors, ces listes trouvent des parallèles dans les papyrus scolaires, comme j'aurai l'occasion de vous le montrer quand j'aborderai plus tard, enfin l'an prochain, l'enseignement, le problème de l'enseignement de langue copte. Force est néanmoins de constater qu'elles sont peu nombreuses, ce qui confère à ces exemples épigraphiques un certain intérêt. Elles trouvent aussi des parallèles dans ce qu'on appelle les scalae. Les scalae, autrement dit, des glossaires gréco-copto-arabes composés par des coptes lettrés du 11e au 14e siècle, coptes soucieux de préserver la langue de leurs ancêtres en train de disparaître dans un monde qui est de plus en plus exclusivement arabisé. Et donc des listes qui donnent des traductions arabes à des mots coptes et ou grecs classés par thème selon les plus anciennes traditions lexicographiques. Alors, voici un exemple. Alors, il se trouve qu'une des plus célèbres scalae se trouve à la Bibliothèque nationale. C'est la Scala Copte 44. Et donc, voilà, je vous ai donné juste un exemple avec un chapitre qui concerne les jardins potagers. Et vous voyez que l'on retrouve un certain nombre des mots de notre liste. Je dois dire qu'une recherche reste à faire hein, sur les connexions génétiques assez complexes entre les listes scolaires, comme celle de nos rochers,
les glossaires de conversation, comme celle des Hermanomata qu'on avait examiné l'an dernier, et les Scalae médiévales. Alors, en a-t-on fini avec les inscriptions scolaires du Petit Phoibamon? Eh bien, peut-être pas tout à fait. Mais je vais m'aventurer maintenant sur un terrain moins solide. On trouve à côté de ces inscriptions, les inscriptions que je vous ai présentées, des extraits des Écritures qui ont pu jouer, elles aussi, un rôle pédagogique en tant que modèle susceptible de faire l'objet d'une lecture ou d'un commentaire de texte, en même temps que pouvant servir à l'édification morale des enfants. Alors, voilà toutes les inscriptions qu'on a retrouvées sur les rochers environnants, hein, qui donnent donc les psaumes, proverbes, psaumes, Ézéchiel, psaumes, Jacques, proverbes et la première épître aux Thessaliens. Alors, certes, les moines avaient l'habitude de couvrir les murs de leurs cellules ou des bâtiments collectifs de citations à visée religieuse et éthique, sans pour autant qu'elles aient servi à un enseignement. Sinon, à un enseignement tout au long de la vie, comme on dirait maintenant. D'ailleurs, certaines de ces inscriptions sont accompagnées du nom de celui qui les a laissées en témoignage de piété, et pour rester dans la mémoire de ceux qui suivront en espérant qu'ils prieront pour lui. Hein, le vœu est souvent, quelquefois, clairement exprimé, comme dans cette inscription, où vous avez ici psaume 24:7, et à la fin, vous avez le nom de la personne qui l'a gravé, moi, Pacom. Ou cette inscription-là, la 68, qui a été gravée par Abraham, dont je cherche le nom, voilà, Abraham, fils de Pagéné, hein, qui habite ce monastère.
Le même Abraham a laissé d'ailleurs une autre inscription qui se trouve aussi être une inscription biblique que vous avez ici, une inscription qui donne un extrait des proverbes. Ou alors cette inscription qui donne Ézéchiel 18:23 avec ici le nom de la personne qui l'a gravé,
hein, par l'humble Psenti. Mais certaines de ces inscriptions du Petit Phoibamon ont un profil assez particulier qui ne rend pas, je crois, déraisonnable l'interprétation scolaire qu'on pourrait en faire. C'est le cas de cette inscription, la copte 47, qui a été trouvée en haut de la falaise, sur la droite en entrant. Eh bien, on y lit un extrait des Proverbes, 18:13,
qui répond avant d'avoir écouté, montre sa bêtise et se couvre de ridicule. Ce proverbe ne constitue-t-il pas une maxime qu'un maître adresserait volontiers à un élève?
De même que l'inscription suivante, la copte 155, trouvée en haut de la falaise, sur la droite en entrant.
Prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère, prie pour moi.
Alors, certes, on a ici le Chel et Joy, prie pour moi, qui donne un caractère plus anecdotique à cette inscription, mais les premières lignes, qui est une citation de Jacques 1:19, ne seraient pas déplacées non plus dans la bouche d'un maître d'école. Alors, je n'irai pas plus loin. Conscient du caractère hypothétique de ma proposition, les maximes qu'on a été amené à tirer des Écritures, notamment des Proverbes et des Psaumes, et vous voyez que ce sont les deux livres bibliques qui sont les plus représentés dans nos inscriptions, et suivant les recommandations, par exemple, de Jérôme, hein, pour en faire un matériau scolaire, peuvent tout aussi bien être des recommandations à l'attention des moines qui, leur vie durant, puisent à la sagesse biblique et tentent de les mettre en œuvre.
Il est presque impossible de faire le départ entre citations scripturaires à caractère pédagogique et maximes à visée édifiante que les moines auraient laissées sur les rochers entourant le monastère comme autant de préceptes à méditer et à mettre en pratique. Les deux se confondent tant le monastère est une école de piété. Quoi qu'il en soit, même si l'on préfère ne pas prendre en considération les inscriptions bibliques, les autres graffitis, les autres dipinti que j'ai présentés témoignent sans aucun doute d'une activité d'enseignement. Nous avons vu que rien ne les différencie dans leur contenu des documents scolaires sur papyrus ou ostraca et qu'ils suivent les méthodes pédagogiques en vigueur dans les écoles, l'apprentissage de la lecture et de l'écriture par les listes d'onomata, l'apprentissage de l'arithmétique par le rabâchage des tables d'addition et de multiplication, l'apprentissage d'une seconde langue vivante par des listes thématiques bilingues. Pourtant, à aucun moment, dans les trois volumes de publication des fouilles de Saint-Foy-Bamond, l'hypothèse d'une école dans ce monastère n'est évoquée. Pire, dans le compte-rendu qui donna du volume 2, celui où les inscriptions et les ostracas sont publiés, le papyrologue Jacques Schwartz dément le rapport entre ces inscriptions et le monastère en les rapprochant d'autres inscriptions trouvées sur les rochers environnants. Qui, je le cite, c'est toujours ce compte-rendu qu'il a donné dans la chronique d'Égypte de 1967, qui n'ont rien à voir avec le monastère et qui sont des graffitis laissés, semble-t-il, par des déserteurs qui auraient fui la vallée du Nil, ayant refusé l'enrôdement de force et qui seraient venus se cacher dans cette vallée si difficilement accessible. Alors, comme le dit Jacques Schwartz, joint à la présence de diverses tables de multiplication signalées plus haut, ces graffitis grecs, ces graffitis laissés par les déserteurs, ne se rattachent au monastère que par leur emplacement, sans trahir quoi que ce soit de la vie du monastère. Alors, voilà qui vient faire voler en éclats l'hypothèse que j'ai essayé de développer en proposant de voir dans ces inscriptions un témoignage d'une activité scolaire en milieu monastique. Faut-il y renoncer? C'est ce que nous verrons la semaine prochaine.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.